Comment n'allez pas croire un homme, je vous le répète, si complaisant avec ses questionneurs, qui parlaient par 6 heures d'affilée, sans laisser au secrétaire le temps de tailler leurs plumes. Un fameux madré se friquait, tout à fait à l'école de son maître, noyant son monde dans une inondation de paroles et jouant les bavards pour mieux dissimuler ce qu'il lui importait de taire. De toute manière, pour pouvoir faire usage de ses dires dans un procès, il faudrait recommencer son interrogatoire à Paris, devant une commission d'enquête dûment constituée, car celle-là ne l'était point. En somme, on avait jeté un gros filet pour ramener peu de poissons. Dans les mêmes jours, le roi Jean s'occupait à saisir les places et biens des félons, et il dépêchait son vicomte de Rouen, Thomas Coupe-Verge, à mettre la main sur les possessions des d'Harcourt, tandis qu'il envoyait le maréchal d'Audrehem investir Évreux. Mais partout, Coupe-Verge tomba sur des occupants peu amènes et la saisie resta toute nominale. Il lui aurait fallu pouvoir laisser garnison dans chaque château, mais il n'avait pas emmené assez de gendarmes. En revanche, le gros corps décapité de Jean d'Harcourt ne demeura pas longtemps exposé au gibet de Rouen. La deuxième nuit, il fut dépendu secrètement par de bons Normands qui lui donnèrent sépulture chrétienne, en même temps qu'il s'offrait l'agrément de narquer le roi. Quant à la ville d'Évreux, il fallut y mettre le siège. Mais elle n'était pas le seul fief des Évreux navarres. De Valognes à Melun, de Longueville à Conches, de Pontoise à Coutances, il y avait de la menace dans les bourgs, et les haies au long des routes frémissaient. Le roi Jean ne se sentait guère en sécurité à Rouen. Il était venu avec une troupe assez forte pour assaillir un banquet, non pas pour soutenir une révolte. Il évitait de sortir du château. Ses plus fidèles serviteurs, dont Jean d'Artois lui-même, lui conseillaient de s'éloigner. Sa présence excitait la colère. Un roi qui en vient à avoir peur de son peuple est un pauvre sire, dont le règne risque fort d'être abrégé. Jean II décida donc de regagner Paris, mais il voulut que le dauphin l'accompagnât. « Vous ne vous soutiendrez plus, Charles, s'il y a tumulte dans votre duché. » Il craignait surtout que son fils ne se montrât trop accommodant avec le parti navarrais. Le dauphin se plia, réclamant seulement de voyager par l'eau. « J'ai accoutumé mon père d'aller de Rouen à Paris par la Seine. Si je faisais autrement, on pourrait croire que je fuis. » En outre, nous éloignant lentement, les nouvelles nous joindront plus aisément, et si elles méritaient que je retourne, j'aurais plus de commodité à le faire. Et voici donc le roi embarqué sur le grand lin que le duc de Normandie a commandé tout exprès pour son usage, car ainsi que je vous l'ai dit, il n'aime guère chevaucher. Un grand bateau à fond plat, tout décoré, orné et doré, qui arbore les bannières de France, de Normandie et de Dauphiné, et qui manœuvre à voile et à rames. Le château en est aménagé comme une vraie demeure, avec une belle chambre, meublée de tapis et de coffres. Le dauphin aime d'y deviser avec ses conseillers, d'y jouer aux échecs ou aux dames, ou de contempler le pays de France qui a le long de cette grande rivière bien de la beauté. Mais le roi, lui, bouillait de s'en aller à ce train calme. Quelle sotte idée de suivre toutes les courbes de Seine qui triplent la longueur du chemin, alors qu'il y a des routes qui coupent droit. Il ne pouvait se supporter sur cet espace restreint qu'il arpentait en dictant une lettre, une seule, toujours la même, qu'il reprenait et remodelait sans cesse. Et à tout moment de faire accoster, de patauger dans la vase des débarcadères, d'essuyer ses houseaux dans les pâquerettes et de se faire amener son cheval qui suivait avec l'escorte le long des berges pour aller visiter sans raison un château aperçu entre les peupliers. Et que la lettre soit copiée pour mon retour. Sa lettre au pape, par laquelle il voulait expliquer les causes et raisons de l'arrestation du roi de Navarre. Y avait-il d'autres affaires au royaume? On ne l'aurait pas cru. En tout cas, aucune qui dût requérir ses soins. La mauvaise rentrée des aides, la nécessité d'affaiblir de nouveau la monnaie, la taxe sur les draps qui causait la colère du négoce, la réparation des forteresses menacées par l'anglais, il balayait ses soucis. N'avait-il pas un chancelier, un gouverneur des monnaies, un maître de l'hôtel royal, des maîtres des requêtes et des présidents au Parlement pour y pourvoir? Que Nicolas Braque, qui était reparti pour Paris, Simon de Bussy ou Robert de Loris s'emploient à leur besogne. Ils s'y employaient, en effet. Grossissant leur fortune, en jouant sur le cours des pièces, en étouffant le mauvais procès d'un parent, en favorisant un ami, en mécontentant à jamais telle compagnie marchande, telle ville ou telle diocèse qui jamais ne le pardonnerait au roi. Un souverain qui tantôt prétend veiller à tout, jusqu'au plus petit règlement de cérémonie, et tantôt ne se soucie plus de rien, fût-ce des plus grandes affaires, n'est pas homme qui conduit son peuple vers de hautes destinées.